Bonsoir à toutes et à tous. Vous êtes bien sur la locale 97.3 à Saint-Giron dans l'émission La fille à la fenêtre. Alors aujourd'hui, c'est l'épisode 9 de La fille à la fenêtre. Je suis ravie de vous retrouver. Alors peut-être vous avez remarqué que j'arrive pas vraiment à tenir le rythme mensuel que je m'étais imposé. Du coup, je vais essayer d'osciller entre un rythme mensuel et un rythme bimensuel. Donc ça veut dire que s'il n'y a pas d'émission au mois de mai, ben, il y en aura une au mois de juin, mais peut-être qu'il y en aura, une au mois de mai parce que j'aurai trouvé un truc super que j'aurais très envie de partager avec vous. Mais je ne vais pas m'avancer trop. Normalement, la prochaine, ça sera au mois de juin. Dans cette émission, on a énormément parlé du travail des femmes. Et en fait, je parle de cette émission comme étant une émission de littérature. Alors certes, à chaque fois, je lis de la littérature dans cette émission. Mais je pense qu'il faut aussi quand même dire un peu maintenant que c'est une émission où je m'intéresse à la question de l'histoire des femmes. Plus particulièrement, ces derniers temps, à la question de l'histoire du travail des femmes. Parce que j'avais trouvé ce super livre dont je vous ai tant de fois vanter l'existence, qui s'appelle « Le travail et la vertu » de Catherine Blunden. Le travail des femmes, aujourd'hui on va en reparler de manière peut-être un peu plus globale, essayer de faire un peu un résumé de tout ce qu'on a dit, en essayant de comprendre qu'est-ce qui s'est passé entre le passage de la femme qui travaille à l'extérieur, puis la femme au foyer, puis la question de la double journée de travail, n'est-ce pas, ou la question de la fameuse conciliation travail-vie de famille. Voilà, essayer de faire un peu le lien entre tous ces trucs-là. Donc dans les précédentes émissions, je m'étais vraiment concentrée sur l'idée de montrer que le modèle de la femme au foyer, c'était un modèle qui avait été imposé par la révolution industrielle, que c'était pas un modèle immuable, et qu'il n'existait pas depuis des temps immémoriaux, contrairement aux idées reçues, à ce qu'on peut parfois entendre. C'est dû à quoi le fait qu'on lise ou on entende que la femme au foyer, c'est un modèle immémorial, ou alors que les femmes ont toujours travaillé, mais qu'elles ont toujours travaillé à la maison. C'est notamment lié au fait que l'histoire du travail des femmes a toujours été invisibilisée, et qu'on a toutes les raisons de croire qu'avant l'époque dite moderne, donc avant l'avènement du capitalisme, c'est-à-dire au XVIe, XVIIe siècle, les femmes travaillaient beaucoup à l'extérieur de leur foyer. D'ailleurs, le foyer tel qu'on le connaît maintenant, c'est-à-dire des parents, des enfants, donc la famille dite nucléaire, n'existait pas vraiment. La plupart des gens, ils vivaient en communauté familiale élargie, donc ils vivaient avec, j'en sais rien, moi, le grand-père, la grand-mère, les oncles, les tantes, etc. En fait, on vivait pas isolé sur un couple. C'était pas le couple, l'unité familiale. Enfin, donc les deux principales ressources que j'ai d'un point de vue historique sur l'histoire du travail des femmes, c'est Catherine Blunden, Le travail et la vertu, et Caliban et la sorcière de Sylvia Federici, qui a d'ailleurs été réédité parce qu'il était épuisé, donc il est ressorti aux éditions Entremonde là en 2017. Quand on croise leurs travaux, c'est ce qu'elle nous donne toutes les raisons de penser ça. Federici parle de femmes qui travaillent à l'extérieur, qui font toutes sortes de métiers au Moyen-Âge, à la fin du Moyen-Âge. Et elle explique que les femmes ont été mises au foyer au XVIe, XVIIe siècle. Après, ce qui est compliqué, c'est qu'elles sont pas forcément d'accord entre elles, Catherine Blunden et Federici, et du coup, entre le XVIIe et le XIXe, ça nous fait toute une période où, en fait, elles ont été progressivement mises au foyer. Et c'est quelque chose qui commence vraiment, ou qui s'accélère vraiment avec la révolution industrielle. Mais donc, il manque quand même toujours, selon moi, alors après, peut-être qu'il y a plein de trucs que je connais pas, donc que j'ai peut-être pas vu et tout, mais il manque quand même une vision féministe globale sur l'histoire du travail des femmes, qui nous fasse comprendre les dynamiques. Ce qu'on lit est complètement contradictoire par rapport à ça. Quand on lit, par exemple, Michel Perrault, c'est la spécialiste de l'histoire des femmes en France, donc c'est une historienne qui a énormément écrit, qui a coordonné l'histoire des femmes en 5 volumes avec Georges Duby, qui est un spécialiste du Moyen-Âge, qui est quand même une somme académique sur la question des femmes. Donc elle fait de la micro-histoire, c'est-à-dire elle va regarder une personne à un moment donné, dans un espace-temps donné. En fait, elle a fait une série d'émissions de radio en 2005 sur France Culture, qui a été retranscrite en livre avec le titre « Mon histoire des femmes ». Et dans ce livre, donc c'est un livre qui date de 2005 quand même, donc c'est pas comme si depuis, vu qu'elle est en fin de carrière, je pense pas qu'elle ait révolutionné sa pensée et que maintenant elle nous dise l'extrême inverse. Elle écrit « Les femmes ont toujours travaillé. Leur travail était de l'ordre du domestique, de la reproduction, non valorisée, non rémunérée. » Bon. Cette phrase, elle reflète une idée hyper répandue. Mais elle est très problématique parce qu'elle donne à penser que le travail des femmes à l'extérieur, donc à l'extérieur du foyer, dans la rue, à faire des activités, j'en sais rien, moi, chaudronnière, boulangère, plein de choses comme ça, ça nous laisse à penser que ce travail serait apparu à la Révolution industrielle. D'ailleurs, elle ne parle pas d'avant la Révolution industrielle dans son livre. Or, quand on lit les autres chercheuses féministes, toujours Blunden et Federici, elle nous donne à penser l'inverse que dans le monde occidental, parce que bon, je veux dire, les recherches de ces trois personnes se cantonnent à l'Europe finalement et puis un peu les États-Unis. Tout ça, ça nous donne à penser que les femmes, elles travaillaient à l'extérieur avant d'être reléguées à la sphère domestique. Donc en fait, ça veut dire qu'on a, même d'un point de vue historique, de la recherche historique, je veux dire, classique, en fait, cette histoire-là, on ne la connaît pas. Elle est invisibilisée, on ne sait pas très bien ce qui se passe. Alors cette fausse idée, l'idée que les femmes auraient toujours été des femmes au foyer, puis auraient commencé à travailler au début du 19e siècle, voire dans les années 60, parce que ça c'est aussi la version encore plus débile qu'on peut entendre, ça débouche sur l'idée que les femmes auraient pu commencer à travailler dans les années 60-70 avec l'avènement du féminisme. Qu'est-ce qui s'est passé dans les années 60-70? En 65, les femmes ont pu commencer à travailler sans l'autorisation de leur mari. Avant, elles travaillaient à l'extérieur depuis extrêmement longtemps. De toute façon, toute la révolution industrielle, elles travaillent à l'extérieur. Je veux dire, c'est une main-d'œuvre pas chère pour les usines, les filatures, etc. C'est juste qu'en 65, elles peuvent choisir ce qu'elles font ou alors aller signer un contrat de travail sans l'accord de leur mari. Bon, ouf. Donc ça, c'est une idée qui invisibilise le fait que les femmes ont toujours travaillé à l'extérieur, avant la révolution industrielle, pendant la révolution industrielle, jusqu'à aujourd'hui. Et donc, l'histoire du travail des femmes, c'est une histoire qui a été réécrite, qui a été falsifiée, c'est une histoire qui nous a été volée. Moi, franchement, quand je lis Catherine Blunden ou quand je lis Sylvia Federici, je suis scandalisée du fait que je ne connais absolument rien de l'histoire du travail des femmes, sans parler de l'histoire des femmes, enfin bref. Et qu'en fait, on a des idées extrêmement fausses jusqu'à aujourd'hui sur cette question. En fait, les femmes ont toujours travaillé, à l'intérieur comme à l'extérieur, mais en fait, comme le travail domestique, leur travail a été volé, leur travail a été caché, leur travail a été tué, leur travail a été invisibilisé. Bon, la travailleuse, en fait, c'est un modèle beaucoup plus ancien et beaucoup plus répandu que la femme au foyer. Enfin, en fait, un modèle, c'était une existence, c'était l'existence de ces femmes. Après, il y a le modèle de la femme au foyer qui a été mis, je veux dire, au service de la bourgeoisie comme idéologie pour mettre les femmes au pas. L'autre chose qui a été invisibilisée, c'est le fait que la femme au foyer, c'est une travailleuse comme les autres. En fait, elle travaille, la femme au foyer. Enfin, qu'est-ce que vous croyez qu'elle fait toute la journée, sérieusement? Et ensuite, la femme au foyer, je veux dire maintenant, aujourd'hui, au XXe siècle, la femme au foyer, la plupart du temps, est à la fois femme au foyer et à la fois travailleuse à l'extérieur. C'est le modèle le plus répandu aujourd'hui. Je veux dire, la femme au foyer, salariée. On parlera après de la répartition des tâches domestiques. Bon. La période durant laquelle le modèle de la femme au foyer idéologiquement a été le plus dominant, ça va de la fin du XVIIIe siècle à la deuxième moitié du XXe siècle. Il y avait entre les femmes une fracture, qui était une fracture de classe d'un point de vue du travail. Les femmes de bourgeois, bon ça on en a déjà parlé, les femmes de bourgeois étaient interdites de travail, et c'est probablement au XXe siècle, mais ça encore, est-ce qu'on le sait très très bien? Bon, moi j'ai pas l'impression de le savoir bien, parce que je lis des articles d'universitaires qui vont focaliser sur un truc très précis, un endroit, etc. Enfin en fait, c'est difficile d'avoir une idée globale de ça quand même. Mais moi, le sentiment que j'ai, c'est qu'au XXe siècle, c'est là que l'idéologie de la femme au foyer a été le plus loin. C'est là que les femmes de couple, comment dire, plus... les moins élevés dans l'échelle sociale ont été gardés à la maison parce qu'en fait, c'est devenu un modèle positif pour absolument tout le monde. Voilà. Et ensuite, dans les années 70, les femmes se sont remises à travailler de plus en plus. Après, on peut se poser la question, est-ce que c'est lié au mouvement féministe, la valorisation du travail, etc. ou est-ce que c'est lié du fait que l'économie capitaliste avait besoin aussi que les femmes se mettent au travail? Bon, je pense que c'est probablement un peu des deux. Voilà, mais donc dans les années 50, le modèle de la femme au foyer, c'était un modèle dominant. Et donc c'est un modèle qui a tellement marqué les esprits qu'aujourd'hui, tout le monde est persuadé qu'à cette période, et jusqu'à cette période, les femmes ne travaillaient pas. Bon, c'est quand même assez, assez étrange comme manière de penser. Bon, alors après, quand on considère ce que fait une femme au foyer, hein, ses activités, ses tâches, donc évidemment, on va penser à ménage, cuisine, courses... Oh bah c'est bizarre parce que les femmes qui travaillent elles font ça aussi, mais bon. Alors, parce qu'en fait, de la même manière qu'on considère la femme au foyer comme un phénomène historique et donc pas quelque chose de naturel ou qui aurait toujours existé dans le temps, la sphère domestique, je veux dire l'existence de la sphère domestique, l'existence d'une maison où vit un couple, une famille nucléaire, l'existence du travail ménager, l'existence des normes d'hygiène, tout ça, ce sont des apparitions historiques liées à la révolution industrielle. Catherine Blunden en parle très bien, en long, en large et en travers. Elle a énormément d'arguments pour dire ça, on a toutes les raisons de le penser. Et donc, au lieu de figer les tâches des femmes dans un travail domestique supposément immémorial, comme le fait Michel Perrot, il faudrait travailler à montrer l'historicité du travail domestique. Les contraintes, c'est-à-dire le niveau d'hygiène demandé à une femme dans sa maison, tout ça, c'est des contraintes qui ont été fabriquées par le dominant et pour le dominant. C'est pour le servir, lui. C'est pour son prestige social. C'est pour son confort personnel à lui. Le fait de bien tenir une maison, d'élever les enfants tard. Ah, élever les enfants tard, parlons-en. Au début du XVIIIe siècle, les enfants pouvaient être pendus à l'âge de 7 ans en Angleterre. Et ils travaillaient tous, y compris chez les nobles. Je veux dire, l'invention de l'enfance, l'invention du modèle parental, l'invention de l'instinct familial, l'instinct maternel, tout ça, ce sont des choses qui ont été inventées au XVIIIe siècle. Et ça a été notamment extrêmement influencé par la pensée de Rousseau. Pensons à Émile ou l'éducation. Tout ça, c'est des constructions historiques qui nous viennent de la bourgeoisie occidentale au XVIIIe siècle. Une fois que la bourgeoisie a accompli cette révolution idéologique chez ses propres femmes, chez les femmes de bourgeois, que la bourgeoisie avait parqué ses femmes dans leur foyer avec des domestiques pour remplir un simulacre d'activité et être là uniquement pour leur prestige social, ça on l'a vu dans notre émission numéro 5, et ben la bourgeoisie, qu'est-ce qu'elle a fait ? Elle s'est mise à faire aussi de la propagande pour mettre au pas les femmes de la classe ouvrière. Car au miracle, au début de la révolution industrielle, les femmes prolétaires, ben en fait elles faisaient pas vraiment... Elle faisait pas vraiment de travail domestique. Let me tell you how and what one no good man done to me. He called me pretty. Young and wild, after that he let me be. He'd taken advantage of my youth, and that you understand. So wait a while, I'll show you, child, just how to treat a no good man. Make him stay at home, wash and iron. Tell all the neighbors he done lost his mind. Give your house rent shakes on Saturday night. Monday morning your whole collector's good and tight. You see a man you really like, let him bite that monkey brother in his back. When his cruel heart turns, his love breaks down. Hold him where you got him, make him stay in town. 'Cause I'm a safety woman looking for a safety man. I made him stay at home, help me wash and iron. The neighbors know he done lost his mind. I give a house rent shake one Saturday night. Monday morning I help collectors good and tight. I seen a man I really like, I let him bite that monkey brother smack in his back. When his cruel heart turned, his love breaks down. I hold it where I had it and he stayed in town. I'm a safety woman and I had to have a safety man. Say, I
I got everything a pygmy need, 'cause I'm a safety woman, I'm looking for a safety man.
Toujours à Saint-Girons, sur la locale 97.3, dans La fille à la fenêtre. C'était Bessie Smith, Safety Mama. Alors, c'est quoi cette histoire de femme prolétaire qui ne faisait pas de travail domestique ? Au début de la révolution industrielle, enfin même au 19e siècle, la stratégie des ouvrières, c'est d'avoir recours à des services et à un mode de vie qui absorbe le moins possible de temps en dehors de leur travail. En fait, il existe des cantines. Elles font peu ou pas de travail ménager, de toute façon elles habitent dans des trucs minuscules et puis on leur a pas inventé tout un tas de machines à utiliser et de normes d'hygiène à suivre. Je veux dire, leurs enfants, ils vont travailler avec elles, donc du coup elles doivent pas s'occuper d'elles de telle ou telle manière qui leur serait prescrite par l'État, etc. Et en fait, je dis pas que c'est un mode de vie qui est bien et qu'il faut suivre, en fait. C'est juste, j'explique que le travail domestique tel qu'on le connaît maintenant et toutes les contraintes qu'il y a autour de ça pour être accepté socialement finalement et que voilà, tout ça, ça n'existe pas vraiment. London, elle cite un extrait de roman de cette époque-là, qui est un roman qui critique du coup la mauvaise vie des femmes ouvrières. Ça parle de scènes qui sont réelles. Je peux vous lire un extrait. Un homme vient dans un de ces clubs, donc un endroit où les femmes vont boire et manger après l'usine. Un homme vient dans un de ces clubs avec un enfant dans les bras. « Viens, dit-il à une des femmes, rentre à la maison, car je ne peux tenir cet enfant tranquille, et l'autre pleure chez nous. »« Je ne rentrerai pas, espèce de paresseux, réplique-t-elle, je t'entretiens, et les enfants aussi, et cela devient assommant si je ne peux pas boire une bière tranquille. » Bon, il existe à l'époque effectivement plein de couples où en fait c'est la femme qui travaille et l'homme qui reste à la maison et qui fait le ménage. Et en fait du coup il commence à y avoir toute une littérature là-dessus de la part des bourgeois, y compris de la part de Marx et Engels, n'est-ce pas, nos amis, sauf qu'ils ne sont pas du tout nos amis parce qu'ils ne sont pas du tout féministes, mais bon ils sont quand même nos amis, mais bon on ne sait pas trop. Et pour dire que, regardez, les ouvrières, elles ne s'occupent pas de leur maison, c'est des mauvaises mères, etc. etc. Alors qu'en fait qu'elles travaillent. Et comme les hommes finalement, et que du coup, pourquoi elles en feraient plus qu'eux, hein ? Elles n'ont pas l'air de penser qu'elles devraient, en tout cas. Donc il y a un certain nombre de gens qui se lancent dans une propagande, qui vont l'accuser d'être une ménagère incompétente. Et Blunden, elle en parle en citant les rapports des inspecteurs du travail à l'époque. Donc en fait, il y a des rapports d'inspecteurs du travail qui datent de 1866, 1867 et 1833. Donc je vais vous lire des extraits, vous allez voir, c'est assez gratiné. Comment il parle des ouvrières. Comment une femme de cette catégorie, employée au triage du charbon, peut-elle tenir sa maison, rendre son mari heureux et lui assurer le confort ? Premièrement, elle ne sait pas tenir une maison propre et rangée. Deuxièmement, elle ne sait pas faire la cuisine. Troisièmement, elle ne sait rien de la gestion requise pour que les gains de son mari aillent aussi loin que possible. Quatrièmement, elle est ignorante de l'éducation convenable des enfants. Autre extrait. Elles commencent tôt à travailler dans les briqueteries et y travaillent toute leur vie et ne peuvent savoir faire la cuisine, laver ou réparer les vêtements et ne pourront jamais faire de bonnes ménagères. Autre citation. Il est universellement admis que l'emploi des femmes dans les fermes est démoralisant. Non seulement cela les déféminise, mais cela engendre un mal social lourd de conséquences en les désadaptant et les indisposant contre les devoirs convenables d'une femme à la maison. Autre citation. Aucune épouse propre et nette n'apparaît pour souhaiter le bonjour à son mari, aucune mère souriante et affectionnée pour recevoir ses enfants rentrant à la maison. Au contraire, tous s'assemblent, également fatigués, dans une maison misérablement meublée, sale et sordide. Autre citation. Employées de 8h à 17h, elles reviennent épuisées et refusent, refusent de faire un effort pour rendre la chaumière confortable. Lorsque leur mari revient à la maison, ils trouvent tout inconfortable, la chaumière sale, aucun repas préparé, les enfants fatigants et querelleurs, et sa maison lui devient tellement intolérable qu'il repart se saouler au pub. Autre citation. Si nous voulons arrêter la croissance nationale du vice, nous devons agir à sa source réelle, la maison. Au lieu de cette femme gaspilleuse et désordonnée qui y préside, conduisant son mari au palais du djinn en raison de l'inconfort de sa propre maison et abîmant pour la vie le caractère et la santé de son enfant par son propre manque de sens, nous devons en éduquer une qui sera une ménagère propre et précautionneuse et une mère patiente et habile. j'arrête parce que ça commence à faire un peu beaucoup. Mais donc cette tendance de culpabiliser les ouvrières qui travaillent en disant qu'elles en font pas assez, qu'elles doivent être de meilleures mères, qu'elles doivent être de meilleures ménagères, qu'elles ne savent pas bien faire la cuisine, qu'elles ne savent pas bien faire le ménage, tout ça, c'est une tendance qui s'étend sur tout le XVIIIe siècle. Résultat, elle dit Blunden, déjà en 1851, la minorisation des femmes au travail, c'est quelque chose d'acquis, c'est quelque chose de structurel, c'est quelque chose qui est passé dans les mœurs et les regards. Le fait que c'est pas normal, en fait, qu'une femme travaille. Donc, de moins en moins de femmes travaillent. Et elles travaillent dans des secteurs d'activité qui vont être de plus en plus réduits. La couture, le travail en usine minutieux qui va demander de petits gestes précis, etc. Le soin aux enfants, l'éducation, le ménage, la cuisine. Alors qu'avant, finalement, bah oui, elle travaillait dans des mines de charbon, faisait des travaux de valet de ferme. Bon, après, à la campagne, les femmes vont continuer à faire ces travaux-là très longtemps parce qu'en fait, ça ne va pas être possible que ce soit uniquement les hommes qui les fassent. Mais du coup, ça restreint le champ d'activité des femmes. Bon, du coup, pour résumer, les femmes ont toujours travaillé, oui. Les femmes ont toujours travaillé dans la sphère domestique, non, parce que la sphère domestique a été créée avec la révolution industrielle. Et donc, le fait qu'elles doivent travailler dans la sphère domestique, à la maison et à l'extérieur, en même temps, c'est un phénomène extrêmement récent. Et donc, on voit que les cobayes de cette fameuse double journée, donc le fameux truc conciliation, travail, famille, eh ben en fait, c'est les cobayes de ce truc-là, ça a été qui ? Ça a été les femmes prolétaires au début de la révolution industrielle. C'est la bourgeoisie qui a instauré des règles et une pression de plus en plus stricte concernant les normes d'hygiène, le ménage, la cuisine, l'éducation des enfants. Au XIXe siècle, il y a des femmes qui avaient pressenti ce drame venir, finalement. Bon, peut-être j'exagère un peu, mais en tout cas, il y a des femmes bourgeoises, des femmes de bourgeois, qui avaient écrit des articles qui proposaient la collectivisation des tâches ménagères dans les rues. Par exemple, partager bon, les domestiques. Alors bon, c'est des femmes de bourgeois, donc elles avaient des domestiques. Mais par exemple, faire une seule cuisine pour toute la rue. Ou alors, il y a eu des moments où il y avait des aspirateurs qui passaient de rue en rue pour aspirer. Et en fait, les personnes qui faisaient le ménage, c'était des personnes dont c'était le travail. Et elles passaient avec un énorme aspirateur et elles aspiraient maison après maison. Ça, c'est au début du XXe siècle. Blunden, elle parle de ça. Et sauf qu'en fait, ça ne s'est jamais généralisé. L'aspirateur s'est seulement généralisé, je veux dire, de manière personnalisée. Un aspirateur pour une femme toute seule dans sa maison. Parce que pourquoi tout ça n'a pas fonctionné ? Pourquoi toutes ces tentatives de collectivisation n'ont pas fonctionné ? Parce que le patriarcat n'y a aucun intérêt. Une femme est beaucoup plus vulnérable, toute seule, chez elle, à gérer tout le travail toute seule. Et donc, on se retrouve avec chaque femme, toute seule, dans sa maison, qui fait le même travail. Bon. Aujourd'hui, la majorité des femmes travaillent. La majorité travaille à temps partiel, avec des contrats précaires, mais elles travaillent. Mais aujourd'hui, en 2016, les femmes accomplissent 3h30 de travail ménager par jour, contre 2h pour les hommes. Ça, c'est des statistiques qui datent de 2016 que j'ai trouvées sur le site inégalité.fr. Ces statistiques de 2016, elles incluent quoi ? Elles incluent le bricolage, le jardinage et le soin des animaux. C'est une grosse blague. Donc du coup, l'écart se creuse encore plus si on considère uniquement le ménage, la cuisine, les courses et les enfants. Je veux dire, entre 1999 et 2010, en 11 ans, le temps moyen journalier consacré par les femmes au travail domestique a baissé de 22 minutes. Ok, on fait 22 minutes de moins en 10 ans, mais ça encore, ça date de 2010. Et celui des hommes a augmenté d'une minute, passant de 1h59 à 2h. Ce travail domestique et ce mode d'organisation familiale, c'est un reliquat de la révolution industrielle. Avant, les femmes travaillaient, mais on n'exigeait pas d'elles qu'elles travaillent dehors, qu'elles tiennent bien leur maison, qu'elles élèvent de beaux enfants et qu'elles soient pour leur mari aussi sexy qu'une actrice de film porno. Finalement, pourquoi je m'énerve à parler de cette invisibilisation du travail des femmes ? C'est parce qu'en fait, la situation dans laquelle on est aujourd'hui, pour un nombre très élevé de femmes, n'est pas plus enviable que des situations ailleurs dans le temps, dans l'histoire et tout. Et qu'en fait, l'invisibilisation de l'histoire du travail des femmes pour comprendre finalement que le rôle de la femme au foyer, c'est un rôle qui nous a été imposé récemment d'un point de vue historique, c'est juste une autre manière de nous faire avaler notre exploitation. Ça contribue, pour reprendre les thèmes de Colette Guillaumin, qui est une féministe matérialiste, ça contribue à l'appropriation collective des femmes par les hommes.
Qui c'est qui fait la vaisselle? Faut pas que ça se perde. Qui c'est qui doit rester belle? Les mains dans la merde. Mais tout change, et voici Jules qui lange les fesses de l'héritier. Il balaye, et bientôt quelle merveille, il astique le plancher. Ça fait rien, on change rien. Qui c'est qui fait la vaisselle? Faut pas que ça se perde. Qui c'est qui doit rester belle? Les mains dans la merde. Mais tout bouge, et voici que les yeux rouges, il fait cuire le rôti. Il cuisine, quelle splendeur assassine. Fait la plongée, il essuie. Ça fait rien, on change rien. Qui c'est qui fait la vaisselle? Faut pas que ça se perde. Qui c'est qui doit rester belle? Les mains dans la merde. Mais tout marche, mais ça marche. Et voici qu'il ne se cache quand il reste à la maison. C'est Germaine qui ramène tout l'argent de la semaine. Ce n'est pas contre raison. Ça fait rien, on change rien. Qui c'est qui fait la vaisselle? Faut pas que ça se perde. Qui c'est qui doit rester belle? Les mains dans la merde. Mais il l'aime, mais il s'aime. Et ce n'est pas un problème de savoir qui va porter la culotte ou bien les bottes. Et le seul drapeau qui flotte, c'est une tête d'oreiller. Ça fait rien, on change rien. Qui c'est qui fait la vaisselle? Faut pas que ça se perde. Qui c'est qui doit rester belle? Les mains dans la merde. Mais voici que sonne l'heure de traîner l'enfant qui pleure vers l'école au banc de bois. L'enfant de Germaine et Jules, sans y penser, articule dans les livres d'autrefois. Ça fait rien, on change rien. Qui c'est qui fait la vaisselle? Faut pas que ça se perde. Qui c'est qui doit rester belle? Les mains dans la merde. Tout recule, et plus tard le petit Jules aura des enfants aussi, qui derrière leur cartable dans l'école imperturbable épelleront ces niaiseries. Ça fait rien, on change rien. Qui c'est qui fait la vaisselle? Faut pas que ça se perde. Qui c'est qui doit rester belle? Les mains dans la merde. Qui c'est qui fait la vaisselle? Faut pas que ça se perde. Oh ben non.
Vous êtes de retour sur la locale 97.3 à Saint-Girons dans La fille à la fenêtre. Et du coup, je vais parler de l'histoire du travail des femmes et de la question de la double journée de travail. Et donc, à ce sujet, il y a un livre qui est assez connu, enfin en tout cas d'une autrice assez connue qui s'appelle Annie Ernaux, dont je vous conseille la lecture si vous ne le connaissez pas. Ça s'appelle La femme gelée. C'est vraiment l'histoire... Enfin, c'est très intéressant, même sur la question de la classe sociale et tout. Et c'est Annie Ernaux qui raconte sa vie en tant que jeune mère qui se met à travailler et qui se retrouve à absolument tout faire à la maison. Mais je vais pas vous lire d'extrait de ce livre. Je vais vous lire des extraits d'un livre beaucoup moins connu, qui date des années 90. C'est un livre suédois. Qui s'appelle Offshore. Hein. L'autrice, c'est Aino Trossel, alors A-I-N-O, c'est son prénom, et Trossel, son nom de famille, T-R-O-S-E-2-L. Donc le livre s'appelle Offshore, et il a été publié aux éditions de L'Élan en 1998, et malheureusement, c'est une maison d'édition qui a fermé, du coup, c'est un livre qui est épuisé, qu'on peut trouver soit avec beaucoup de chance chez un bouquiniste en fouinant, ou alors... sur internet, et sur internet, le moins cher que j'ai vu, c'était 10 euros. Bon. Si vous avez un super bibliothécaire, vous pouvez le harceler pour qu'il l'achète sur internet, je sais pas, par exemple. Donc, c'est un livre qui a une structure assez étonnante, c'est-à-dire que c'est un dialogue, en fait. C'est un livre qui raconte deux histoires en parallèle. Part d'un homme qui est plongeur pour des compagnies pétrolières sur des plateformes pétrolières. Donc il va faire des raccords de tuyaux, ou alors, là c'est le cas du livre, essayer de remonter un hélicoptère, parce qu'il y a eu un accident d'hélicoptère et donc il y a deux personnes qui sont mortes. Et donc c'est un métier qui implique d'être donc absent de chez soi. Ça va être
toute la question pendant des semaines et des semaines, voire des mois, et donc de rester dans des chambres de saturation hyper longtemps parce qu'ils vont plonger à des profondeurs pas possibles. Et donc c'est un métier hyper dangereux et donc plutôt bien payé. Voilà, et donc ça alterne des chapitres où lui parle, et le mode de narration c'est il, mais on est dans sa tête, avec des chapitres où elle parle, sa femme, qui est à la maison et qui l'attend, et elle dit « je », et elle s'adresse à lui en disant « tu ». Ça parle pas du tout que de travail, ça parle de ce que c'est d'être une femme et d'avoir eu des illusions et de se rendre compte que c'est la vie qu'on mène, elle correspond pas du tout à ses illusions. Et ça explique bien ce que c'est qu'une femme qui va se projeter uniquement dans son couple et dans l'amour, alors qu'un homme, lui, il va se projeter vers l'extérieur, vers son travail, parce qu'en fait, il n'a pas été autant construit dans un besoin affectif qui fait qu'il ne va pas se projeter autant dans son couple. Du coup, ça montre très très bien tout ça. Et moi, du coup, je vais vous lire uniquement des passages qui concernent cette femme. Donc, c'est des passages qui constituent que la moitié de ce roman. Et puis, si un jour vous tombez sur ce livre, je vous en conseille vraiment la lecture. Et c'est une femme qui est dans la situation dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire qu'elle est à la fois femme au foyer et en plus elle travaille. Elle travaille dans une maison de retraite, elle s'occupe de personnes âgées. La vie ici, au village, pas mal, merci. On a une machine à laver, pas vrai ? Après avoir dansé dans l'eau pendant un moment, le linge sort tout étourdi. Mais il a l'air de s'être bien amusé et moi je suis jalouse. Les jambes des collants sont entourées autour de ceintures souples. Soutien-gorge et slip s'adonnent à des étreintes pas très décentes. Rien n'est en ordre, et l'ensemble est légèrement rose, comme si cette riboule dingue l'avait rendu malade. Je vais chercher ma bouteille d'eau de Javel grand modèle achetée à Edzvala, avec son énorme étiquette, synonyme de réduction. La vie à la cambrousse ? Pas mal, merci. On est tout près d'Edzvala, bastion de la culture mondiale, où on peut acheter à des prix massacrés de l'eau de Javel, des boîtes de sardines, des sacs de macarons, de la poudre à laver, du papier cul, du déboucheur et des vêtements pour les gosses amenés par montagne entière dans des poids lourds qui font la queue pour décharger. Ceux qui viennent de Göteborg et de Stockholm et veulent voir Mer Baka et les rives étirées du lac Leuven se paient au passage Gruvon et la puanteur de son usine de pâte à papier au sulfate avant de recevoir le crochet du doigt au plexus solaire de l'hypermarché d'Edzvala. Ces habitants des grandes villes y sont exposés aux mauvais traitements les plus caractérisés et n'en ressortent qu'avec 10 boîtes de hachis du Norland, 7 sweatshirts et 15 paires de chaussettes de sport, tandis que le sac qui pend au bout de l'autre main est rempli à ras-bord de savon, de pâte dentifrice et de déodorant pour le restant de leur jour. Mais que serais-je sans Edzvala, berceau de la culture et providence des familles nombreuses ? La vie ici ? Pas mal, merci. La bibliothèque n'ouvre pas avant 1h de l'après-midi, mais les poubelles sont vidées une fois par semaine. Il ne faut pas se plaindre d'ailleurs. On a son boulot à une distance raisonnable, des enfants qui sont en bonne santé, et un mari qui ne rentre jamais saoul le soir, pour la bonne raison qu'il ne rentre pas. Alors tout va bien, pourvu qu'on ne s'égare pas dans la nature au point d'oublier les heures de boulot, les heures d'ouverture de la crèche, les heures de passage du quart de ramassage scolaire, les heures de la télé, les heures d'ouverture du dispensaire pour les enfants, les heures de réunion de parents d'élèves, et Dieu sait encore quelles autres heures il faut respecter si on veut passer pour un bon citoyen chargé de famille. La vie ici, c'est tout simplement merveilleux. L'air en particulier, les caprices de la météo, la vue dégagée, l'espace, et presque pas de bruit. Chaque nuit sans nuages, je peux rester pendant des heures à jouir du spectacle, le nez vers le ciel, sans le moindre réverbère pour faire pâlir les profondeurs vertigineuses et scintillantes de l'espace. Le reste du temps, on bosse, pas plus éreinté que les autres, le nez vers le sol, et sans cesse taraudé par la mauvaise conscience envers ces êtres improbables que sont vos enfants. Ils grandissent très vite, et ils ont beaucoup à donner. Mais moi, je n'ai pas le temps. Alors je râle comme d'habitude. Et je les aime surtout quand ils sont profondément endormis. La vie ici, comment est-ce exactement ? On est seul, très seul. C'est beau, mais on est seul. On ne se voit jamais, pas vrai ? Même pas quand tu es à la maison. As-tu remarqué qu'on se parle de moins en moins ? Mais ça va changer. J'en ai assez d'attendre. Tu rentreras quand tu voudras, à supposer que tu te soucies de rentrer. Si je ne suis pas là, tu sais où se trouve la clé. Comme d'habitude, sous l'auvent du perron. Il y a des fois où je me demande à quoi tu penses, quand tu exposes à contre-cœur tes idées sur la façon dont tu estimes qu'on devrait vivre pour que tout marche bien. Tu parles comme dans ton sommeil, et quand on rapproche tes différents points de vue les uns des autres, ils sont tellement contradictoires qu'il est impossible d'en tirer quoi que ce soit. Tu dis que c'est pour moi, que c'est pour les enfants, que c'est pour nous mettre à l'abri des mauvaises surprises. Mais rien de cela n'est vrai. Pendant des années, j'ai cru que c'était la vérité, que le soleil tournait autour de nous, dans notre maison, et que tu pénétrais de temps en temps dans notre atmosphère comme une météorite, afin de recharger notre énergie, avant de repartir dans le froid en quête de sécurité et de chaleur pour ta famille bien-aimée et nécessiteuse. Mais maintenant, je me rends compte que nous ne sommes que de petites lunes à côté de cette immense galaxie qu'est l'aventure pétrolière. Nous n'avons que peu d'importance. Nous sommes vraiment superflus. La sécurité, elle est là, dans ma tête. C'est là qu'est sa source, c'est là qu'est sa limite. Je comprends tout. Je serai capable de faire ce que tu fais, et peut-être que je le ferai véritablement un jour. C'est ce que tu dis toujours, n'est-ce pas ? Il faut bien que quelqu'un fasse le boulot. Il faut que quelqu'un quitte le bateau. Excuse-moi, j'exagère. J'ai un fragment de miroir dans l'œil. Il y a bien sûr la maison, ce havre dans lequel nous devions vivre. Nous avons tout le reste aussi, ce qu'il faut pour que la vie nous donne le plus possible, qu'elle nous entraîne vraiment dans son sillage. Mais l'un des acteurs principaux fait faux bond. Il prétend avoir des motifs valables et il faut remettre la représentation à plus tard. De mon côté, je tente maladroitement une pirouette en solitaire, mais je suis contrainte de quitter la scène sous les sifflets, dès avant le premier acte. Je n'avais pas besoin de prendre un boulot, dis-tu. Je pouvais rester à la maison avec Thomas et ensuite avec Hélène. C'est ce qu'on appelle vous faire une fleur. Encore une comme ça et je suis perdue. Ne jamais rencontrer qui que ce soit dans cette immense maison, qui pourrait très bien accueillir le double d'enfants et beaucoup d'invités et des fêtes très animées, mais pour cela il faut être deux. Et au début, je croyais aussi que la vie s'accordait simplement une petite pause et qu'elle reprendrait son cours dès que tu rentrerais. Mais ce n'a pas été le cas, car il fallait trouver preneur pour tous les fils de fer barbelés, en faire des rouleaux, abattre les murs et réintroduire une monnaie commune. Cela prenait du temps et ensuite tu t'envolais à nouveau. Juste au moment où j'étais couché là, avec le sang qui me montait à la figure et où j'étais tout en toi. C'est peut-être ridicule ce que je gagne, mais mon employeur a le droit de rire, lui. Ce dont j'ai horreur, c'est quand c'est toi qui ris. Grâce à tes plongées, nous sommes maintenant dans la situation enviable de ne plus avoir de dettes et je pourrais faire vivre la famille avec mon revenu ridicule. Oui, c'est vrai, j'ai fait les comptes. Esther ne gagne pas plus que moi et elle a réussi à entretenir sa maison et à faire vivre ses enfants, à elle seule, pendant toutes ces années. Non, je ne veux pas divorcer. Au contraire, je voudrais qu'on vive ensemble. Tu ne comprends donc pas ? Pourquoi te comportes-tu comme si tu dormais ? T'est-il jamais arrivé de te poser des questions sur notre vie commune ? Pourquoi tes idées sont-elles si mal argumentées ? C'est vrai, tu ne sais rien faire d'autre que plonger. Mais la finalité de tout cela, où est-elle ? Je croyais que ce n'était que le moyen, un exil volontaire de quelques années, afin de pouvoir enfin faire ce qu'on voulait au juste. Mais quant à savoir quoi ? Ce que nous voulions au juste. Nous n'en avons jamais parlé. C'était trop évident. Cela s'est évaporé, comme le livre, dont un écrivain n'arrête pas de dire à tout le monde qu'il va l'écrire un jour ou qu'il projette en silence dans son fort intérieur. J'ai fermé le sous-sol, à part la buanderie et le garage. J'ai barricadé le sauna, la douche, le petit salon et la seconde resserre. La maison a rétréci, ai-je dit aux enfants, et ils ont trouvé ça drôle. Je me suis également demandé si je n'allais pas fermer le grand salon, la lingerie et la chambre d'amis. Le salon est bien trop beau. Je peux faire ma couture sur la table de la cuisine et quand nous avons des invités, ils viennent toujours avec leur caravane. Ça fait un peu moins désert et c'est toujours ça de moins à nettoyer. En fait, nous ne nous servons vraiment que de la cuisine et de la pièce où il y a la télévision. Sans compter que la maison est vide la plupart du temps, sauf mes jours de congé. j'ai commencé à faire des choix. C'est exactement comme quand on relève un store. Quoi que je fasse, l'éclairage ne sera plus jamais le même. Il est facile de respirer quand vient le temps des lilas. C'est vrai que tu as rétréci un peu, mais tu y as gagné sur le plan de la réalité. Je ressens beaucoup de tendresse envers toi. Pense un peu à tout le trajet que nous avons accompli ensemble. Tu m'as déjà donné tant de choses. Ce sera bon quand tu reviendras. Tu ne reconnaîtras peut-être pas les lieux, car les choses ont pas mal changé ici. J'ai coupé les pins à côté de la boîte à lettres. J'étais seule à la maison et la scie à moteur n'était pas en mesure de s'opposer à mes intentions. C'est bien ce que je pensais. On est reconnaissant. Il suffit de presque rien. J'ai été émue jusqu'aux larmes quand tu m'as demandé comment j'avais pu m'en tirer les premières années. Ainsi, tu te poses des questions à mon sujet. Tu es curieux de ce qui me concerne. La réponse que tu n'as jamais obtenue est simple. À chaque fois, je me disais « Tiens, voilà mon adolescent de fils qui rentre à la maison. Il a roulé sa bosse, il est fatigué et à bout. » On se rappelle bien comment on était soi-même, n'est-ce pas? Ensuite, une fois que tu avais repris tes esprits et dévoré, comme le font les jeunes gens, les petits plats que je t'avais préparés, tu éprouvais le besoin de parler. Et moi, j'écoutais, en mère, adolescente, compréhensive, et donc prête à accepter que j'étais. J'en sais long sur le travail sur les plateformes pétrolières maintenant. Je serais capable de l'effectuer moi aussi, et même dans mon sommeil. Je sais tout de tes angoisses et de tes doutes et des petits écueils de fierté qui te font continuer la lutte. Je sais tout de toi, mais que sais-tu de moi? Il est vrai que je me sens seule, mais de même que les racines de l'arbre parviennent à trouver un peu d'humidité dans les plus infimes failles du rocher, je réussis à me procurer d'agréables compagnies, ici même. Quel ami plus fidèle qu'un feu dans la cheminée, même en été? Ou bien le vent? Cette caresse qui survient le soir une fois les enfants couchés et qu'on va écouter dehors, devant la maison, pour échanger des messages. Aussi athée que je sois, je suis capable d'apprécier le pouvoir de guérison du vent. Mais comme tu ne l'ignores pas, j'ai aussi des plantes vertes pour me tenir compagnie. Je ne redoute nullement les banalités, je les respecte même hautement. Elles sont le plus souvent vraies. Mes plantes m'apportent de l'aide en étant gaies ou tristes, ou en se laissant lentement consumer par une douleur rentrée avec, pour conséquence, la chute de leurs feuilles. Certaines font la grève, refusent de fleurir, bien qu'elles soient arrosées et soignées selon toutes les règles de l'art. Ce n'est pas ça, disent-elles, non. Et pourtant, il nous manque l'essentiel. Mes plantes m'apportent un certain soulagement. Elles transforment l'indicible en un conte. Vous imaginez un peu. Perdre ses ongles et ses cheveux avant d'avoir 30 ans. Les patients donnent, mais ils prennent également. Ils avalent goulûment la jeunesse flétrie qui émane de vous et ils en redemandent. Les enfants sont la propriété de chacun et le mythe que tu es également. Ah, le docteur Jivago, comme c'est romantique d'avoir un homme qui vit de telles aventures très loin de vous et qui revient ensuite à la maison vous acheter un jacuzzi et une voiture neuve. On meurt de faim, on se jette sur ces miettes d'immédiat, vagues reflets d'un paradis disparu. Je trie des vêtements que je pose en tas sur le plancher. Les enfants grandissent, il y a des habits qu'il faut réparer, d'autres rallonger, mais certains sont irrémédiablement dépassés. Ils vont rejoindre le tas de ceux à donner. Éline est assise juste à côté. Elle les soulève les uns après les autres, des sourires passent sur son visage au fur et à mesure des souvenirs. Elle essaye d'enfoncer un petit bonnet sur sa tête. mais celui-ci est beaucoup trop étroit et reste posé sur le haut de son crâne. C'est tordant de l'observer en train de nouer les cordons sous son menton, malgré tout. Elle va dans l'entrée et se met sur la pointe des pieds pour se voir le plus possible dans la glace. Son sourire s'éteint. Elle essaye de tirer sur le bonnet, mais celui-ci refuse de descendre sur ses oreilles. Moi qui, il y a un instant, allais me mettre à rire, je vois maintenant sa nudité et la mienne. Elle tire sur le bonnet, tente de revenir en arrière jusqu'aux vertes prairies de l'enfance. Je vois la nostalgie la recouvrir d'un manteau d'anesthésie qui ne laisse pas pénétrer la moindre lumière. Je me suis trompée. J'ai certes raconté ce qu'il en était, mais j'ai oublié l'essentiel. Les rêves. Mais ça va changer. Il n'est pas possible de modifier ce film-là au montage. Le scénario définitif est écrit à chaque seconde et c'est moi qui tiens la plume. Ma petite fille se tient devant la glace avec un bonnet trop petit sur le haut de la tête. En dépit de ses 5 ans, elle est déjà seule avec sa nostalgie. Tout ce que tu achètes quand tu es à la maison. Je me suis souvent posé des questions à ce sujet. Au moment précis où tu sors ton portefeuille de ta poche, le tape dans ta grosse main et ensuite ce bref instant où tu montres à tout le monde ce dont tu viens de faire l'acquisition. À ce moment-là, tu as l'air heureux. Mais après, on dirait que tu t'en fiches pas mal. Au début, je croyais que nous avions la même attitude vis-à-vis de l'argent. Il en faut, assez pour ne pas avoir besoin de compter chaque sou et de bosser pendant les vacances, mais pas au point de le laisser vous dominer et se mettre à gouverner votre vie. Mais maintenant, il semble que l'argent soit devenu toute ta vie. Je suis certaine que si tu pouvais entendre ce que je suis en train de penser, tu protesterais parce que ce n'est pas beau à entendre. Mais tu ne nous ramènes jamais rien d'autre. Et c'est tout ce que tu as comme récompense pour le fait de cesser de respirer pendant des semaines quand tu descends sous l'eau. L'argent est le résumé de ce dont tu es privé pendant le temps que tu passes là-bas. L'argent, c'est du concentré de vie qui a de plus en plus tendance à devenir ton élixir de vie. Mais le plus affreux, c'est que tu en es fier. Tu es manifestement très fière des sommes que tu te forces à gagner, et je n'ose pas te montrer à quel point je trouve que c'est triste. Est-ce que nous n'avons pas déjà tout, même si tu prétends le contraire? Cela fait si longtemps que je t'attends. Mais maintenant, c'est terminé. J'entends en moi l'appel d'une mère. Je tournerai mon visage vers les enfants. Je leur donnerai la paix et jamais plus ils n'auront à voir leur mère verser les larmes de la solitude. La sentimentalité est le fossoyeur de la joie de vivre. Nous prendrons la voiture et tenterons de rattraper l'été. Eline apprendra à faire du vélo et, loyale comme je suis, je garderai quelques jours de congé pour quand tu rentreras. Si jamais tu reviens. À moins qu'un nouveau champ pétrolifère, avec les surprises qu'il réserve, ait plus besoin de tes forces que moi. Dans ce cas-là, envoie-moi un puzzle ou quelque chose à titre de compensation pour que nous ayons de quoi nous occuper pendant ce temps. J'entends en moi l'appel d'une mère. Ses sources sont noires, son horizon aussi lumineux qu'illimité. Ne te donne pas la peine de rentrer. Va directement à ce qui suit. Ne pense pas à nous. Nous pensons de plus en plus rarement à toi. Ne fais pas remonter la vase à la surface. D'ailleurs, nous ne serons pas à la maison quand tu rentreras. Il y a un peu de viande d'élan dans le congélateur. Sois gentil d'arroser les plantes dans la baignoire. Well, you know you took my heart.
You know you mean.
J'ai été beaucoup trop sévère envers moi-même. Je ne me suis jamais accordé un clin d'œil amical, ni un sourire, à l'intention de moi-même. Tout cela me paraissait laid et trahir la suffisance et l'autosatisfaction. Mon âme a eu toutes les chances de se dévorer, étant donné que la vie a été si gentille avec moi, mais j'ai obstinément poursuivi ma cure d'amaigrissement auto-imposée, rongeant fiévreusement la cuisse de Zérimner. C'est un cochon dans la mythologie nordique dont la chair repousse chaque jour. Chaque matin aussi dévoré de mon sentiment d'insuffisance. Cela a dû être pour toi un don du ciel, de me voir aussi peu sûr de moi, aussi obsédé par les réactions et les sentiments des autres, et en particulier les tiens. J'ai été une sorte d'œil d'eau vivant qui reflétait ton univers et dans lequel tu as sans cesse pu te mirer et constater que tu es plus grand et plus fort que moi. Tu n'as jamais pu faire preuve de faiblesse. Tu ne te fiais pas à moi quand je te demandais de te mettre à nu, de venir vers moi. Mais tu as sans doute eu raison. La chute de l'un entraîne celle de l'autre. Une femme qui n'ose pas sentir sa force est peut-être plus à plaindre également que celle qui est dans le cas inverse. J'ai été beaucoup trop sévère envers moi-même. J'ai assumé la responsabilité de choses avec lesquelles je n'avais absolument rien à voir. J'ai fini par demander pardon pour le fait qu'il se mettait à pleuvoir. Est-ce que tu te souviens de cela un jour où tu étais à la maison ? J'ai été la plus carpette des carpettes. Il m'arrivait de pleurer sans rien dire. Dans ces cas-là, tu t'inquiétais et te mettais de mauvaise humeur. Ma colère vis-à-vis de toi, mon impuissance, se donnait libre cours sous forme lacrymale. Je pleurais, au point d'en avoir des sanglots, alors que j'aurais dû au contraire te soulever, te sortir et aller te déposer à un bel endroit, dans la nature, où nous aurions pu parler. Désormais, je ne suis plus disposée à attendre. Ce n'était pas ma faute, même si je l'ai cru pendant longtemps. Ce n'était la faute de personne. C'est vrai que tu ne m'avais rien promis, en fait, et moi, je n'étais pas capable de te regarder dans les yeux à un moment où tu ne t'y attendais pas, afin de voir ce qui s'y passait au juste. Je me suis fié à moi-même. J'aime être seul, penser, sans risquer d'être interprété de travers ou accueilli avec méfiance. Poursuivre le fil de mes pensées sans être interrompu ou détourné. Je mène des conversations extrêmement intéressantes avec moi-même, à propos de tout et de rien, et quand j'arrive au boulot, je trouve que c'est vraiment calme et silencieux, après tous les arguments que j'ai échangés en mon fort intérieur au cours du trajet en voiture. Jadis, j'avais toujours mal entre les omoplates. C'était là que s'était localisé mon sentiment de culpabilité. J'avais toujours mauvaise conscience. J'observais d'un œil inquiet nos enfants qui naturellement s'inquiétaient à leur tour. Et j'avais ainsi confirmation du fait que je les avais négligés, que je ne les avais pas assez stimulés, quoi qu'on puisse entendre par là. On nous fait vraiment ingurgiter n'importe quoi de nos jours. Avoir mauvaise conscience, avoir honte, me sentir coupable. Cela a accaparé l'essentiel de mon énergie. J'étais trop occupée à me mettre martel en tête à propos de ce que j'avais négligé de faire, que je faisais trop peu ou encore de travers. Jusqu'à un beau jour. Celui où j'ai compris que j'ai le droit de vivre. Personnellement, même si je n'ai pas lu le journal depuis une semaine, lavé les carreaux depuis 6 mois ou peint du bout des doigts avec les enfants une seule fois pendant leur vie. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Peut-être est-ce à cause de mon anniversaire. Je suis une femme d'âge mûr maintenant, me suis-je dit. Va-t-il jamais arriver ce jour où on est enfin mûr et libre, ce jour qu'on a toujours appelé de nos voeux ? Je suis restée à réfléchir pendant des jours. Je me suis observée, moi et ma vie. Je me suis reportée en arrière et j'ai comparé. Il m'est venu des idées du genre « Et si je mourais ?» Ou encore « Et si la maison brûlait avec tout ce que nous possédons ?» Puis j'ai pensé à mon enfance et à la façon dégueulasse dont ils se sont comportés envers moi. Comme tant de fois auparavant, je me suis dit que jamais je ne pardonnerais. Mais ils sont morts maintenant, ai-je pensé ensuite. Le pardon n'a donc plus aucune importance. Ils ont fait ce qu'ils avaient à faire et on ne peut plus rien y changer. Tu n'as qu'à les envoyer au diable. ils n'ont pas laissé un très beau souvenir derrière eux, essaye de faire mieux qu'eux, toi qui en as encore la possibilité. Cela m'a rendue très joyeuse. J'ai été gaie au même point que lorsque j'ai pensé à la possibilité d'un incendie. Je me disais, je suis vivante, tout existe autour de moi, je n'ai qu'à tendre la main. À cet instant, j'ai décidé que le moment était venu. Je n'ai à obéir à personne d'autre qu'à moi-même. Ce qui est étrange, c'est que je pleure plus facilement maintenant. Je ne me dis pas « plus tard ». Je vais simplement « demain », « la semaine prochaine ». Je suis moins efficace au travail aussi à l'aune préhistorique qui est la nôtre. Cela va plus lentement. Mais c'est uniquement dû au fait qu'il y a tellement de choses à voir et à écouter. Je ne retire plus ma main quand une autre, à la peau ridée par les ans, tente de la retenir. Je reste aussi longtemps que je veux, et comme cela fait longtemps que je suis dans la maison, personne n'ose me dire quoi que ce soit. Car ce que je fais est inscrit dans ces finalités générales d'activité qui ont fait l'objet d'un stage, récemment. La réalité est certes différente. Les filles courent comme des dératées dans les couloirs avec des bassins, des sondes, des chariots à linge et des plats. Mais je ne suis pas sûre qu'elles accomplissent plus de travail pour autant. Tout dépend ce qu'on prend en considération, bien entendu. Les choses ne sont pas plus faciles qu'avant. Tout est devenu tellement pressant. Je suis très fatiguée. Mais je dors bien. Dieu m'ouvre grand les bras quand vient le soir et je ne fais plus ces affreux cauchemars dans lesquels je suis éventrée, étouffée, ou je tombe dans un puits que tu es tellement là de m'entendre raconter. Mes rêves sont intéressants et seraient drôles à relater, mais je n'en ressens plus le besoin. Ils s'écartent de moi comme de minces rideaux de mousseline quand je m'éveille. Les enfants évoluent dans leur univers à eux, leurs yeux qui se reflètent en moi, leur soleil. Je suis large envers moi-même désormais, je laisse la joie monter jusqu'à mon visage quand je les vois. J'ai toujours été contente de les voir. Mais jusque-là, je n'avais pas le droit de le montrer. Avais-je peur de perdre quelque chose, ou bien de quoi pouvait-il s'agir? C'est la façon la plus subtile de maintenir les gens à terre. Je le vois sur ces filles toujours sur le qui-vive au centre commercial. Elles sont très belles, minces, jeunes et bien habillées. Mais l'expression tendue de leur visage vient perturber le tableau. Elles ne sont guère satisfaites d'elles-mêmes, ni extérieurement, ni intérieurement, à en juger par les magazines qu'elles mettent dans leur chariot, à côté du shampoing gel, du lait écrémé et des produits alimentaires à faible teneur en calories, sans oublier les friandises. Les gens qui sont rassasiés ne se gavent pas de bouillie à l'eau, et les gens qui se respectent ne lisent pas ce que dévorent ces jeunes femmes. Je prendrai mes vacances dès la fin de l'école, et ensuite on file. Vers le nord, vers le nord. Peut-être vers la Norvège, où tu te trouves déjà, toi. Je mens quand je dis que je ne fais plus de cauchemars. Une autre nuit, j'ai rêvé de la femme dans l'aquarium. On dirait un titre de roman de gare, mais mon rêve n'était pas aussi facile à avaler. Jürgen, mon ancien concubin de ma prime jeunesse, dont toi et moi ne parlons jamais parce qu'il date d'une époque avant toi, et auquel je ne pense jamais non plus parce que l'année que j'ai passée avec lui était le résultat d'une amourette qui s'est terminée aussi vite qu'elle avait commencé. C'est de lui que j'ai rêvé. Dans ce songe, j'avais mauvaise conscience de l'avoir quitté tellement à la légère. Il était resté sans voix, mais j'avais vu sa peine. J'étais sortie de sa vie, libre comme l'air, et je ne m'étais jamais souciée ensuite de ce qu'il était advenu de lui. Dans ce rêve, je le rencontrais dans la rue, dans une grande ville. Il m'invitait à l'accompagner chez lui, et je le suivais de bon gré. Nous sommes arrivés dans son appartement, et j'ai reconnu celui-ci, car pas une chose n'avait changé depuis l'époque où nous vivions ensemble, malgré les 15 années qui s'étaient écoulées. Je me suis sentie mal à l'aise. Jürgen était vieux maintenant. Il portait un maillot de corps qui n'était pas propre, et je me suis alors aperçue qu'il n'était pas vraiment sobre. Mais il m'a assuré qu'il était satisfait de son existence et qu'il menait la vie qui lui plaisait. « Je vais te montrer quelque chose de splendide, » m'a-t-il dit alors. « En effet, je m'intéresse aux aquariums maintenant. » Et alors je me suis avisée qu'au milieu de la cuisine trônait un grand aquarium de 300 litres posé sur un pied. Il était rempli d'eau, et dans celle-ci nageait une petite femme. Elle était minuscule, pas plus de 20 centimètres peut-être, elle était nue et nageait dans tous les sens. Quand elle m'a vue, elle a fait un signe en direction de sa bouche pour me dire qu'elle ne pouvait pas parler ou qu'elle n'en avait pas le droit. Mais dans ses yeux, je pouvais lire l'expression d'un désespoir sans bornes. Des bulles d'air s'échappaient de sa bouche, et elle est alors montée à la surface pour respirer. Elle a juste passé le bout du nez, pas plus. Il y avait d'ailleurs un filet qui l'empêchait de sortir la tête. Elle a pris sa respiration, plongé à nouveau, et s'est remise à nager dans tous les sens, sans arrêt, toujours avec cette expression de désespoir inscrite sur le visage. J'ai crié à Jürgen de la laisser sortir, d'enlever le filet. Mais il m'a regardé d'un air glacial et s'est contenté de dire « Elle est très bien là où elle est. C'est elle qui veut être là. C'est la seule façon pour elle de s'en tirer. Et puis ne te mêle pas de ça. Tu sais que je suis gentil avec elle, n'est-ce pas ?» Ensuite, je me suis réveillée avec le même sentiment que c'était bel et bien vrai quelque part. L'intensité de l'émotion était aussi forte que si j'avais posé la main sur une plaque chauffante allumée. Je ne crois ni à l'astrologie, ni aux superstitions, et je ne sais pas interpréter les rêves non plus. Je ne crois pas à ce qui n'existe pas, à ce qui n'est jamais arrivé. Mais j'ai au moins appris une chose. Les sentiments et les ambiances, l'atmosphère d'une maison ou d'un groupe, tout cela est aussi réel, certain, vrai et concret que les pierres qui délimitent nos plates-bandes. Mes rêves sont stupides et pourraient aussi bien me montrer accrochée la tête en bas sous un avion. Mais le sentiment qu'il reflète est concret, lui. Il est mien. Il attend seulement l'occasion de s'étaler et de se manifester dans toute son ampleur. Lorsque les sentinelles sont endormies, la vérité vient vous rendre visite. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. C'était La fille à la fenêtre, épisode 9. Je vous dis à dans 1 ou 2 mois. C'était une lecture de Offshore de Aino Trossel, traduit du suédois par Philippe Bouquet. Avant de partir, je voudrais remercier toutes les auditrices qui m'ont fait des retours sur cette émission, qui m'ont fait des compliments, des remerciements, des critiques, du soutien. N'hésitez pas à me faire plus de critiques, vous pouvez me contacter à la fille à la fenêtre, tout attaché, @laposte.net. Et je suis bien contente d'entendre vos retours, ça fait toujours hyper plaisir. Voilà, je remercie Marie qui m'a fait découvrir ce livre. Et je vous souhaite une très bonne soirée. On se quitte avec Anne Sylvestre, Lâchez-moi. Le morceau, on a entendu une virgule extraite d'un morceau de rap de Rêverie, puis on a entendu Bye Bye Baby de Betty Everett, puis on a entendu une autre petite virgule extraite d'un morceau de Rihanna, Consideration. Très bonne soirée sur la locale 97.3 à Saint-Girons.
Quand on a des emmerdements, quand on se cherche une maman, quand on a trop de sentiments, c'est pour moi. Quand les enfants sont pas gentils, quand on aime trop son mari ou qu'on voudrait qu'il soit parti, c'est pour moi. Quand on cherche en vain l'amitié, quand on ne peut pas s'exprimer, c'est pas pour la porte à côté, c'est pour moi. l'araignée qui cherche un régime, l'auteur qui court après sa rime, la bavarde qui fait du mime. Cherchez pas, c'est pour moi, lâchez-moi, j'ai déjà donné. J'en ai assez de vous bercer, il faudra toute la journée que je materne. Lâchez-moi, ça finira mal. Je ne suis pas un confessionnal, c'est de l'invasion cérébrale, ça me consterne, j'ai mal. Mais ce qu'on voudrait voir fleurir, ce qu'on rêve avant de dormir, ce dont on aime le sourire, où sont-ils? On ne les voit jamais pleurer, c'est à la pince à épiler qu'il faut leur tirer leurs secrets, c'est facile. N'arrose pas mon paillasson, apprennent tout seuls leurs leçons, ignorent vraiment sans façon leur nombril. Les qui n'ont pas le temps d'être tristes, les qui avouent quand on insiste que le bonheur parfois résiste. Je les cherche, où sont-ils? Lâchez-moi, vous me piratez. En moi vous prenez vos quartiers, en plus vous me barricadez contre les autres. Lâchez-moi, car vous me ruinez. Moi en matière d'amitié, je ne suis pas un gros banquier, mais j'ai mes pauvres cachés. À force de le répéter, je finirai par m'inventer un égoïsme forcené, vous verrez. Je boufferai le récepteur du téléphone et quel bonheur, j'assassinerai le facteur, vous verrez. Je ne vous écouterai plus, je vous laisserai vous pleurer dessus, là vous ne serez pas déçus, vous verrez. La grande sourde qui ricane, l'indifférence à l'œil qui plane, l'écluse qui a fermé ses vannes, ce sera moi, vous verrez. Lâchez-moi, laissez-moi souffler. Je ne suis pas votre bouée, apprenez plutôt à nager, c'est plus utile. Lâchez-moi, et peut-être un soir j'aurai envie de vous revoir. Je dirai, ils sont en retard, c'est difficile, mais j'en garde l'espoir.